Merci beaucoup pour cette belle introduction. Et je me rappelle, vous voyez, là, en vous voyant face à moi, j'ai, je sais pas, peut-être 100, 200 enseignants. Eh bien, je retrouve le stress que j'avais quand je venais faire devant mon enseignant de physique des exposés, notamment pour les Olympiades de physique. Bon, j'espère qu'aujourd'hui ça va bien se passer. Et je vais vous parler d'un télescope qui est en train aujourd'hui de révolutionner un petit peu notre vision de l'univers. Ce télescope, c'est le James Webb. Je vais vous le présenter dans un instant. Alors voici le sommaire en quelque sorte de cette conférence. Je vous parlerai du James Webb. On va faire un peu de cosmologie, hein, puisque comme je vais vous parler de la formation des galaxies, et moi mon domaine de recherche en particulier, c'est vraiment la formation des toutes premières galaxies dans l'univers. Donc on va faire un peu de cosmologie, je vous parlerai du modèle standard, mais rassurez-vous, hein, je vais faire quelque chose de très simple. Et ensuite je vais vous parler des premières observations du Webb et des premières controverses. Parce que ça a été la première chose qui a marqué un peu le grand public, et puis nous aussi, hein, quand on a vu les premiers résultats du Webb, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et peut-être des choses assez exceptionnelles qui ont été annoncées, comme quoi le James Webb, ça y est, avait brisé le modèle cosmologique standard. On verra si c'est vrai. Et puis on va parler d'un résultat inattendu, je vous parlerai un peu de trous noirs, ce sera plutôt vers la fin. Et puis si j'ai le temps, je vous passerai un petit coup de gueule sur la course à la publication et comment le James Webb a changé notre façon à nous, astrophysiciens, de faire de la recherche. Ça, c'est uniquement s'il y a personne qui monte sur scène à la fin de ma conf, on verra. Alors c'est parti, le James Webb, le voici. Hein, là, vous l'avez, ce télescope. Il est à Pasadena, dans le building de la société, dans le bâtiment pardon, de la société qui l'a construite. Et vous voyez que ce James Webb, il a quand même une forme assez bizarre. Normalement, les télescopes, hein, vous savez tous, c'est des miroirs qui sont normalement ronds. Lui, c'est pas du tout ça. Et pourquoi ce miroir? Vous voyez bien que là, on a l'impression qu'il est plié. Alors oui, je vous le confirme, le télescope que vous voyez là, il est plié. Parce que c'est un télescope qui est gigantesque. Le voici, le James Webb. Il est à peu près aussi large qu'un terrain de tennis. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui jouent au tennis, mais la prochaine fois que vous verrez un court de tennis, vous penserez qu'on a envoyé dans l'espace un télescope qui est aussi large qu'un court de tennis et aussi haut qu'un immeuble de 3 étages. Voilà ce que l'homme a envoyé dans l'espace le 25 décembre 2021. Je vais vous le montrer dans un instant. Alors le James Webb, hein, le voici, c'est son miroir primaire qui est là, qui fait 6,40 m de diamètre. Vous avez le miroir secondaire ici. Et évidemment, hein, vous savez, quand la lumière arrive sur le miroir primaire, elle se reflète sur le miroir secondaire. Tout ceci est focalisé ici. Et derrière ce miroir primaire, on a les instruments scientifiques. Alors les instruments scientifiques, je vous les montrerai tout à l'heure, il y a des caméras et des spectrographes, parce que c'est les deux choses qu'on voulait absolument faire avec le Webb. On a une antenne ici qui va nous permettre évidemment d'envoyer les images jusque sur Terre, les images prises par le Webb ou les spectres, les panneaux solaires, parce qu'il nous faut aussi d'énergie. Et puis ça, c'est le bouclier thermique, c'est ce qui va nous permettre de protéger le Webb des rayons du soleil. Parce qu'évidemment, ce qu'on ne veut pas, c'est que les rayons du soleil viennent frapper le miroir primaire. Alors comparons un peu le Webb avec son prédécesseur, même si c'est pas tout à fait le cas, hein, parce que Hubble, on entend souvent dire que Hubble était le prédécesseur du Webb. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que Hubble fonctionnait dans l'UV et l'optique. Le Webb, lui, fonctionne principalement dans l'infrarouge. Je vous en parlerai dans un instant. Hubble, le voici, 2,40 m de diamètre. Le Webb, 6,50 m. Alors évidemment, on n'est pas capable de faire un miroir d'une seule pièce, qu'on pourrait plier. Donc on a pris des hexagones, on en a mis 18, et tout ça, on l'a plié, parce qu'évidemment, le problème que l'on a, c'est qu'un miroir de 6,50 m, comment faire pour faire rentrer un miroir de 6,50 m dans les fusées disponibles aujourd'hui? C'est impossible. Donc il a fallu plier le Webb. Et c'est ce qu'on a fait, hein, c'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont décidé de faire des hexagones pour pouvoir plier plus facilement le miroir. On va parler de différentes étapes de déploiement après le lancement. La comparaison entre Hubble et le Webb, le poids, alors le Hubble, 2,40 m de diamètre, 11 tonnes. Le Webb, 6,50 m de diamètre, 6 tonnes. Tiens, comment se fait-il qu'un miroir beaucoup plus grand, un télescope beaucoup plus grand, pèse beaucoup moins lourd? Eh bien, tout simplement parce que Hubble, il a été lancé dans les années 90, le Webb en 2021. Bah, entre-temps, il y a eu la miniaturisation des choses, ce qui fait qu'avec ce que j'ai dans la main, je peux envoyer des photos, faire des vidéos, faire des appels, même peut-être même réchauffer des plats, si des fois je ne sais pas quoi faire avec mon téléphone, à même éteindre les lumières de ma maison, etc. Donc la miniaturisation fait que le Webb est beaucoup moins lourd que Hubble. On va parler des données traitées par jour. Hubble nous envoie 27 gigas de données par jour, alors que le Webb nous en envoie 460. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment, non seulement c'est le successeur, mais un sacré successeur pour Hubble. Les instruments à bord du Webb, je vous ai dit deux types, des caméras et des spectrographes. Des caméras qui vont fonctionner, là vous avez la longueur d'onde, entre grosso modo 600-700 nanomètres, jusqu'à même 25 microns. quelque part par là. Donc NIRCam, c'est la caméra qui va, je vais vous montrer des images dans un instant, c'est vraiment elle qui fait les belles images que vous avez vues, c'est la caméra NIRCam qui fonctionne entre, on va dire, 600 nanomètres et 5 microns. MIRI, c'est la partie vraiment infrarouge du web qui va observer de 5 microns jusqu'à 25 microns. Il y a un coronographe aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un coronographe? Eh bien, c'est ce qui va vous permettre de masquer la lumière d'une étoile. Pourquoi est-ce qu'on voudrait masquer la lumière d'une étoile avec un télescope alors que le but d'un télescope, c'est d'aller regarder les étoiles? Parce que vous vous intéressez aussi à ce qui tourne autour des étoiles. Et si vous voulez voir les planètes qui tournent autour des étoiles, vous allez masquer la lumière de l'étoile et puis vous allez voir apparaître les petites planètes parce que sinon vous êtes complètement aveuglé par la lumière de votre étoile. Des spectrographes. Alors le spectrographe qui marche beaucoup en ce moment, c'est NIRSpec. Alors NIR, c'est pour Near Infrared, proche infrarouge, parce que ça fonctionne dans le proche infrarouge. Et lui va nous permettre de faire des spectres, non seulement d'une galaxie par galaxie, ça c'est fini, avant c'est ce qu'on faisait, on prenait le spectre d'une galaxie ou d'une planète ou d'une étoile à la fois. Là maintenant, on a un spectrographe qui est multi-objet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre plus de 100 spectres à chaque fois qu'on fait une configuration. Vous utilisez NIRSpec, vous pouvez obtenir le spectre de 100 galaxies, 100 planètes, etc., tout ce que vous avez dans votre champ de vue. Donc voilà les instruments à bord du web. Mais pourquoi finalement est-ce qu'on a construit le web? Eh bien tout simplement parce que, certes, Hubble a fait beaucoup de choses, mais Hubble nous a laissé des interrogations. Et il y a des questions auxquelles Hubble n'a pas répondu, notamment, quand se sont formées les toutes premières galaxies dans l'univers? Hubble, aussi loin qu'il pouvait observer, il trouvait des galaxies. Ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on pouvait remonter le temps effectivement pas mal, comme le disait Hubert Reeves, mais aussi loin qu'il pouvait voir, il voyait des galaxies. Donc si on veut vraiment contraindre quand se sont formées les premières galaxies, il nous fallait un autre télescope. Est-ce qu'il y avait un lien entre les trous noirs et les galaxies? On va voir que les trous noirs, on les trouve principalement dans les galaxies. Et puis, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? C'est quand même une des grandes questions qu'on se pose. Hubble ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que pour savoir si de la vie s'est développée sur une autre planète, il y a plein de techniques, mais il y en a une, c'est d'aller regarder, de faire la spectro de l'atmosphère de votre exoplanète. D'accord? Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Savoir déjà où est votre exoplanète. Donc vous allez masquer la lumière de votre étoile et puis vous allez faire un peu de spectro sur l'atmosphère. Il y a quelques résultats qui sont tombés. Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître que les gens qui bossent sur les exoplanètes, ils sont plutôt prudents avec les données du web par rapport à nous. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques minutes. Alors ça y est, voilà les questions auxquelles on veut répondre. Je ne vais pas toutes les lire. Il y en a certaines. Ça y est, c'est bon, le télescope est fait. Il est plié. On l'a mis dans une fusée. La meilleure fusée disponible sur le marché, c'est la fusée Ariane. Donc, il faut se rendre à Kourou, 25 décembre 2021, 9h20 à Kourou. Ça devait être 13h20, je crois, en France. Vous étiez en plein en train d'ouvrir les huîtres, normalement. Et, alors, je ne sais pas si certains l'ont regardé, mais c'était en direct à la télé. Voici le lancement. On est dans la salle Jupiter. Si vous n'êtes jamais allé à Kourou, je vous invite vraiment à y aller et à visiter le centre spatial, c'est gratuit. Attendez, j'ai une autre meilleure nouvelle, c'est que le CNES peut même payer le voyage pour vos écoles. Bonne chance. Alors ça, c'est le DDO, c'est le directeur des observations, il est français. C'est pour ça qu'à Kourou, quand on fait le décompte final est en français. Voici Ariane, Ariane 5 qui est là, les paratonnerres. Alors pourquoi est-ce qu'on met des paratonnerres? Parce que la fusée, elle est blindée de carburant, vous n'avez pas envie s'il y a la foudre. Vous voyez l'état du ciel, il faisait un temps exécrable. On s'est dit, ils ne vont jamais lancer le web. Là, vous avez les paratonnerres, parce qu'on veut que la foudre tombe ici plutôt que là. Et le web, il est dans la coiffe de la fusée, ici. Ça, c'est du carburant. Le fameux moteur Vulcain dont vous allez entendre parler, il est juste là. Alors là, il faut imaginer le silence qu'il y a dans la salle. Il n'y a pas un bruit quand vous êtes dans la salle Jupiter, parce que tout le monde est comme ça. Il y a la NASA qui est là, l'ESA qui est là, les Japonais sont là, et Ariane Espace qui est payé par la NASA pour envoyer le satellite. Et on va écouter le décompte final.
Attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité.
And we have engine start. And liftoff. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported.
Voilà, et bien quand vous êtes à Kourou, le lancement se limite à ça. C'est terminé. Après, vous ne voyez plus la fusée, vous l'entendez, vous ne la voyez plus. Terminé. Et là, le web est parti. Alors, dernière image qu'on a eue. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Je vais
couper le son, si je peux. Si je dois pouvoir faire ça. Parfait. Donc, Ariane Espace, je vous ai dit, c'était son boulot, c'était d'amener le web à une certaine trajectoire, à une certaine altitude. Et quand vous faites un lancement, il y a des lancements, je crois qu'il y en a au moins un par mois, me semble-t-il, à Kourou. Quand vous faites un lancement, bah, vous avez le droit à une barre d'erreur. Hein. En physique, on aime bien les barres d'erreur. Bah, dans le spatial, on aime beaucoup les barres d'erreur. Et Ariane Espace avait sa barre d'erreur sur l'altitude à laquelle elle pouvait amener le web. Et oui, mais Ariane Espace, n'oublions pas que c'est une entreprise européenne. Donc elle a fait son métier, son job, extrêmement bien. Voici la dernière image que nous avons du web. Donc ça, c'est au moment où Ariane Espace a fini son boulot, elle libère le satellite et le satellite part. Et on se rend compte à ce moment-là que le satellite, il est exactement à l'altitude qui avait été commandée par la NASA. C'est-à-dire, alors on garde toujours un peu de carburant dans nos satellites pour les remettre, parce que comme il y a justement cette fameuse barre d'erreur, on garde un peu de carburant pour remettre le carburant à la bonne altitude. Et bien là, on n'a pas eu besoin d'allumer le carburant. Ce qui veut dire que le carburant qu'on avait mis dans le James Webb, pour corriger la trajectoire que n'aurait peut-être pas bien positionné la fusée Ariane, eh bien, on va le garder pour des opérations scientifiques. Si bien que le web était prévu pour durer 5 ans. Grâce au boulot énorme d'Ariane 5, des techniciens, des ingénieurs, eh bien, on va avoir ce télescope pendant au moins 20 ans. Je sais qu'on a souvent l'habitude en France de se critiquer, etc. Non. Là, je crois qu'on peut être fier de nous. Et fier de nos ingénieurs, fier de nos techniciens, de tous ceux qui font que cette fusée, meilleure fusée du monde, est lancée depuis le sol français. N'oublions pas que le web a été lancé depuis le sol français. C'est dommage, j'aurais préféré que ce soir cette équipe soit sur le terrain. Malheureusement, les Sud-Africains en ont décidé autrement. Alors qu'est-ce qui s'est passé après le 25 décembre 2021? Je vous dis, on a plié le télescope. Vous avez vu, il est plié, vous le voyez bien là. Il est tout plié, il n'est pas du tout en état de fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le déplier dans l'espace. Imaginez-vous, il n'y a pas un astronaute. Hein, Thomas Pesquet n'est pas à côté en train de déplier l'origami. Hein. Tout ça se fait tout seul. Il y avait près de 300 points d'échec. C'est-à-dire qu'on pouvait perdre le télescope à 300 reprises. Et on va déployer tout doucement. Vous avez la date qui va apparaître en bas. Donc, c'est en jour de lancement. La première chose qu'on déploie, évidemment, c'est le bouclier thermique, le bouclier solaire. Dans l'espace, 100 personnes. Et une fois qu'on va... Voilà, on met la petite antenne derrière. Elle doit déjà être déployée. Oui, elle est là. Qui nous permet de communiquer avec lui. On tire le bouclier thermique. Je vais vous la montrer en entier, la vidéo, pour bien que vous appréciez le challenge qui a été relevé aussi par les techniciens de la NASA. On déploie, voilà, les différentes couches, le miroir secondaire. On déploie le miroir primaire. Et le web est prêt et va à son point de stationnement. Alors, son point de stationnement dans le système solaire, c'est le point de Lagrange, le point de Lagrange 2, qui est un point, vous le savez, de gravité stable. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose là-bas, il va rester à cette même position. Et pourquoi? Tout simplement pareil, hein, parce qu'on ne veut pas utiliser de carburant. On ne veut pas emmener du carburant sur ce genre d'engin. Ce serait trop lourd, ça coûterait évidemment beaucoup plus cher au décollage. Le prix, je ne voulais pas donner le prix de ce télescope si des fois vous vouliez en fabriquer un. C'est 10 milliards de dollars, un télescope. C'est-à-dire qu'il a coûté, au moment de son lancement, plus cher que Hubble après 30 ans d'exploitation. Donc, c'est quand même un sacré bel instrument. Le point de Lagrange L2, mais je pense que je n'ai pas besoin de rappeler ici ce que c'est. Et qu'est-ce qu'il va faire au point de Lagrange? Vous l'avez, il va tourner, effectivement, en même temps que la Terre. Donc, il aura toujours le Soleil derrière la Terre. Toujours pareil, on ne veut pas cramer nos détecteurs. Et une fois qu'il arrive au point de Lagrange L2, donc vous allez voir que le bouclier, évidemment, il est comme ça, hein, il est tourné face au soleil. et il va faire ses observations. Donc il lui faut un mois pour arriver jusqu'au point de Lagrange 2. Et quelle est la première chose qu'il fait quand il arrive au point de Lagrange, une fois qu'il est installé, qu'il est positionné? Ben, il fait un peu comme vos élèves quand ils arrivent en classe de découverte, il va faire un selfie. Voici donc la première image, alors c'est dommage, on ne la voit pas trop, c'est un selfie, puisqu'on avait mis sur le miroir secondaire, on avait mis une caméra, et la caméra a pris en photo le miroir primaire. Alors l'excuse de la NASA, c'était de dire non, c'était surtout pour voir si tout s'était bien passé. Tiens, c'était surtout pour dire qu'on a fait le premier selfie à 1,5 million de kilomètres de la Terre. La vraie première image du web, elle est là. Alors comment on a fait pour faire cette première image? On a pris une étoile brillante, et puis on a laissé l'obturateur ouvert pendant quelques millisecondes, parce que vous en avez compte qu'avec un télescope qui fait 6,50 m, vous ne laissez pas l'obturateur ouvert très longtemps, quelques milliers secondes, et on prend une photo. Et voici la vraie première photo du web. Alors là, on a deux écoles, ceux qui vont dire « Ouai, aïe, aïe, ça ne marche pas des masses », ou ceux qui, comme moi, vont dire « Mais c'est formidable !» Parce qu'en fait, ce n'est pas une étoile qu'on voit, c'est 18 étoiles. Tiens donc, pourquoi est-ce qu'on voit 18 étoiles ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous les comptez, vous allez voir qu'il y en avait 18. Donc en fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est le reflet de cette image sur les 18 segments du miroir. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça ? Eh bien, on va aligner les miroirs. On aligne les miroirs, on repointe exactement la même étoile, et voilà ce qu'on a. Et là, on se dit, ah, c'est assez incroyable, ah, c'est dommage, vous ne voyez pas trop, mais c'est une très très belle image où on a une étoile à 8 branches. Ça, c'est 8. Pourquoi 8 branches? Hubble n'en avait que 4 branches parce que, pour la forme de son miroir. Là, lui, il en a 8 parce qu'il a un miroir en forme d'hexagone. Tous les petits points que vous avez derrière, ce n'est pas des étoiles, c'est des galaxies. Vous imaginez quand même, ça y est, en quelques millisecondes, on arrive déjà à voir les galaxies. Et donc ça y est, le télescope fonctionne, on va calibrer les instruments, ça va durer pendant 6 mois à peu près, et on a un télescope, qu'est-ce qu'on peut bien faire avant de montrer les premières images? Eh bien, on a attendu qu'un homme soit disponible, qu'il puisse aller à la télé, en direct, à la télé américaine, pour parler des premières galaxies.
6.5 months ago, a rocket launched from Earth, carrying the world's newest, most powerful deep space.
Alors, je ne vais pas vous faire écouter tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est correct. Tous les chiffres qu'il donne sont absolument corrects. Il a des conseillers. Alors, il faut quand même. Alors, c'est vrai que c'est assez rigolo de voir le président Webb à la télé. Hop, je vais le faire taire. De voir le président américain à la télé pour montrer une image scientifique. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un président français aller en direct à la télé pour montrer les résultats du LHC ou montrer les résultats d'un télescope. Ça ne s'est jamais fait. Là, on a attendu que Biden soit disponible pour que lui aille à la téloche pour montrer les premières photos. Vous imaginez un peu l'impact que c'est. Et ça, ça vous montre tout l'espoir que les Américains ont mis dans ce télescope spatial. C'est le président américain qui a montré les premières images. Et la première image qu'il a montré, merci, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est un champ profond, c'est le champ qu'on appelle SMAX0723. Première image prise par le web, en fait c'est plusieurs images, hein, parce qu'évidemment pour faire des images en couleur, nous on travaille avec des filtres dans le télescope. Donc on va faire une image à 900 nanomètres, une image à 1,15 micron, une image à 1,5, à 2, etc. Et puis on va combiner tout ça, et ça va nous faire des belles images en couleur. Là c'est pareil, hein, vous avez des galaxies qui sont en train de fusionner. Celle-ci, elle est superbe. On a l'impression que c'est un artiste qui a peint. Non, là c'est vraiment une photo qui a été prise. Alors on dit souvent, oui, mais la NASA a dû trafiquer les images. Non, la NASA ne trafique pas les images. Elle prend les données brutes qu'on lui donne, et elle va les coloriser. Donc elles sont colorisées, mais elles ne sont absolument pas trafiquées. Les images que vous avez en bleu ici, ça correspond au flux qui est reçu à une certaine longueur d'onde, dans un certain filtre. Elles ne sont pas trafiquées. C'est vraiment des vraies images. Et déjà, rien que là, on peut commencer à faire un peu de science. Vous voyez cette petite étoile? Enfin, c'est éclairé ici, puis ça bouge un tout petit peu. Ça, c'est du gaz qui est en train d'être écarté, en quelque sorte, parce qu'au centre, il y a une étoile qui est en train de se former. Donc, c'est quand même assez chouette, ces premières images. En voici une autre. Voilà, avec une étoile au centre, 8 branches, hein, toujours pareil, à cause de la forme du miroir. Allez, maintenant, on va se relever un peu les manches, parce qu'on va faire un peu de cosmologie. Je vous ai montré des belles images. Ça, c'était pour la digestion de la truffade. Maintenant, c'est pareil. C'est là, on va bosser un peu. Alors, les slides qui arrivent, les diapos, pardon, qui arrivent, elles sont prises du cours de formation des galaxies que je donne aux élèves de master à Cambridge. Voilà, donc n'ayez pas peur, ça va durer 3 slides, c'est un mauvais moment à passer. Non, normalement ça va se faire, rassurez-vous. Mais vous pourrez en parler à la rentrée à vos élèves. Alors la première image, comme on fait un peu de cosmologie, forcément je dois vous parler de l'histoire de l'univers. L'univers, c'est le modèle actuel qui nous le dit, il a été formé il y a 13,8 milliards d'années par quelque chose qu'on appelle le Big Bang. Libération, énorme libération d'énergie, formation de l'espace et du temps. Donc si dans vos CDI, vous avez un bouquin qui s'appelle « Avant le Big Bang », écrit par des gens qui étaient jumeaux et qui avaient un là, vous pouvez le prendre et surtout le mettre aux archives. Parce que « Avant le Big Bang » n'a pas de sens physique. Le temps n'est pas formé avant le Big Bang. Donc on peut enlever rien que l'expression « Avant le Big Bang ». Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va très très vite, hein. On est entre 10-36 et 10-32 secondes, c'est l'inflation. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Les dimensions dans l'univers vont augmenter très vite. Plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'est un modèle. On n'a pas encore observé l'inflation, on n'y arrivera pas, puisqu'il n'y avait pas de lumière encore à ce moment-là. Et on va émettre les premières ondes gravitationnelles. C'est ça qu'on est en train de chercher. Ah, pardon. Ah, ok. Et en fait, c'est ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher ces fameuses ondes gravitationnelles. Vous avez tous entendu parler qu'on cherche les ondes gravitationnelles émises quand deux trous noirs fusionnent, mais le but ultime, c'est d'aller détecter les ondes gravitationnelles qu'il y avait juste après le Big Bang, pour confirmer ce modèle. Là, on est 10-32 secondes après le Big Bang. 10-6 secondes, on va commencer à former les protons et les neutrons. Et ensuite, on va former les noyaux de notre matière, d'accord, de tout ce qui nous compose. On continue. 3 minutes après, l'univers est principalement composé de lumière, de matière baryonique, de matière noire et peut-être d'énergie noire. Voilà, ça c'est grosso modo l'image que l'on a de notre univers, la composition de notre univers, où on dit qu'on a 5% de matière visible, 27% de matière noire, et 68% d'énergie noire. Et on a besoin de matière noire si on veut reproduire la distribution des galaxies dans les simulations. C'est pour ça qu'on parle de matière noire. Voilà, ça ce sera ma contribution à la thématique de vos congrès, voyage au cœur de la matière, ce sera tout pour ce qui est de la matière. On continue, là on est 3 minutes après le Big Bang. 3 minutes après le Big Bang, ça y est, on a les premiers noyaux des atomes. Et bien là, on va aller de 3 minutes à 380 000 ans après le Big Bang. Il ne se passe pas grand-chose de fondamental là-dedans, si ce n'est que les dimensions de l'univers vont augmenter. Donc si les dimensions de l'univers augmentent, qu'est-ce qui se passe pour la température? Elle diminue. Ok, donc j'ai une soupe de protons, une soupe de neutrons, une soupe de noyaux d'atomes, et ma température diminue. J'ai des électrons aussi. Et à un moment, la température est suffisamment basse pour qu'on puisse lier les noyaux d'atomes avec les électrons. Ça se passe exactement 380 000 ans après le Big Bang. Et à ce moment-là, à cet instant précis, comme vous allez lier les protons et les électrons, eh bien vous allez pouvoir émettre la toute première lumière de l'univers, c'est ce qu'on appelle la lumière fossile. C'est ce que vous avez ici, c'est le fond diffus cosmologique, vous avez peut-être déjà vu cette image. En fait, ça mesure la température de l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Donc c'est la plus vieille photo qu'on puisse avoir de l'univers. La forme, évidemment, de ballon de rugby, c'est pas parce que vous êtes à Clermont et qu'on est quand même très, on n'est pas mauvais en rugby, mais c'est juste parce que si vous développez une sphère en 2D, ben vous avez cette forme un peu ovale. Les différentes couleurs que vous avez là, c'est les variations de température. Quand c'est rouge, c'est un petit peu plus chaud. On parle d'un petit peu plus chaud de l'ordre du milli-Kelvin. Donc c'est vraiment pas des très très grandes variations. Mais ça, en fait, ça suffit pour nous dire que la densité de matière dans les zones qui sont rouges est plus grande que dans les zones où la température est plus basse. Parce que la température trace la densité. Ok ? Donc ça veut dire qu'à partir de là, on sait qu'on a des zones dans l'univers qui sont plus denses que d'autres. Et on va pouvoir commencer à former les premières étoiles. Qu'est-ce qu'il faut pour former les premières étoiles? Il faut un nuage de gaz, un nuage de matière baryonique et de matière noire. On ne peut pas former d'étoiles sans matière noire. Et là, je vais vous montrer une simulation qui a été faite par un collègue à Exeter, Matthew Bates. Et voilà comment se passe la formation d'une étoile. Vous prenez un nuage de matière baryonique et de matière noire, une perturbation. Alors la perturbation, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une étoile qui explose à côté, qui va perturber votre système. Et en perturbant votre système, vous allez fragmenter ce nuage au départ qui était tout à fait simple. Et en fragmentant ce système, en le perturbant, il y a des régions qui vont aller s'effondrer gravitationnellement sur elles-mêmes. Et on va avoir ceci, et voici les premières étoiles. Ok, voilà grosso modo comment ça se passe. Hop, je regarde l'heure pour pas être coupé. OK. Voilà, grosso modo, comment on fait pour la formation des premières étoiles. Pour vous donner rapidement, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon j'y passerai un peu trop de temps, mais tout ça se fait grosso modo en 200 000 ans. Pour former une étoile, il vous faut 200 000 ans, un nuage de matière baryonique et de matière noire et une petite perturbation. D'accord ? Donc en 200 000 ans, vous allez former vos étoiles. C'est ce que montre cette simulation. Mais vous n'en formez pas qu'une étoile. Vous en formez plusieurs, parce que c'est le nuage qui s'est fragmenté, et que chaque région du nuage a donné ces petites étoiles. Donc on peut commencer à dire qu'on a déjà des surdensités d'étoiles, de là à dire qu'on a les premières galaxies, il n'y a qu'un pas. Et ce que l'on sait, c'est ce que nous dit le modèle standard, c'est que les premières galaxies, elles devaient être toutes petites, et qu'elles ont fusionné, parce qu'il y a pas mal d'activités au début de l'univers, elles ont dû fusionner pour donner des galaxies encore plus grosses, qui elles-mêmes ont fusionné, etc., jusqu'à nous amener la Voie lactée. Ça, c'est le modèle standard. Et pour la cosmologie, j'arrêterai là. Vous voyez que c'était quand même pas trop dur. Donc voilà, on part avec des toutes petites galaxies. Donc si on va regarder les galaxies au début de l'univers, on s'attend à trouver des galaxies qui sont toutes petites. Ça va jusque-là, puisqu'après, elles vont grandir pour donner la Voie lactée en fusionnant. Et c'est là qu'arrivent les premières observations du Webb. Et en particulier, les controverses et au moins un résultat inattendu. Je reviens sur cette histoire de l'univers, avec un schéma qui est un peu plus qui est simplifié. Vous avez l'âge de l'univers qui est ici, donc là on est au Big Bang, donc l'univers a 0 ans. 380 000 ans après le Big Bang, on a cette fameuse image que je vous ai montrée, ce fond diffus cosmologique. Ensuite, on va commencer à former les étoiles, mais il faut un peu de temps pour former les étoiles. Et on arrive, 300 millions d'années à peu près après le Big Bang, à ce qu'on appelle l'aube cosmique, qui est là où vous allez former les premières étoiles et les premières galaxies. OK ? Alors, il y a une notion que je vais beaucoup utiliser dans le reste de cet exposé, c'est la notion de redshift. Alors, le redshift, c'est le décalage spectral. Ça, je crois que c'est à l'époque, quand moi j'étais en cours, c'était en terminale. Je ne sais pas si c'est toujours en terminale, c'est peut-être changé. Donc, la notion de redshift, moi, je vais l'utiliser pour le lier à l'âge de l'univers. Plus je vais augmenter mon redshift, plus je vais me rapprocher du Big Bang. OK ? Aujourd'hui, 28 octobre, on est à redshift 0. À redshift 1, c'était il y a 6 milliards d'années. À redshift 6, c'était il y a 12,8 milliards d'années, c'est-à-dire qu'on est 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc gardez en tête ces trois valeurs, redshift 0, redshift 6, 1 milliard d'années après le Big Bang, et redshift 15, 300 millions d'années à peu près après le Big Bang, c'est au moment où on va commencer à former les premières étoiles et les premières galaxies. Et ça, je vous ai dit, c'était un des objectifs du Webb, de regarder quand se sont formées les premières galaxies. Je vous ai dit, aussi loin que le télescope spatial Hubble pouvait observer, il détectait des galaxies. Et c'est pour ça qu'on a fait le Webb. On a fait le Webb pour pouvoir voir encore plus loin. Et donc cette quête pour l'aube cosmique, je vais vous la résumer ici, où vous avez la galaxie la plus lointaine observée en fonction de l'année. On commence dans les années 50 et on va arriver à 2022. Ça, c'était juste avant le lancement du Webb. Là, vous avez le redshift, donc 0, on est très proche de nous. Et puis plus on monte, plus on se rapproche du Big Bang. Avant le Webb, voilà grosso modo comment évoluait la courbe. C'était une exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on ouvrait un nouveau télescope, évidemment, on repoussait les limites, en quelque sorte, de l'univers observable. Et c'est bien ce qu'on s'attend à faire avec le Webb. On s'attend, en utilisant ce nouveau télescope, à repousser un peu plus loin les limites de l'univers observable. Et évidemment, comme ça, c'est l'objectif numéro un du Webb, c'est la première chose qu'on a fait quand on a reçu les données. Donc je dis, Biden parle à la télé le 12 juillet 2022, et pour nous donner les premières images, nous montrer les images, les premières images. Les scientifiques n'ont reçu ces images que le 14 juillet, les images publiques. Le 14 juillet, on a reçu ces premières images. Eh bien, regardez combien de temps après la première publication scientifique a été annoncée ou a été mise en ligne sur nos archives, puisqu'on utilise des archives. Vous voyez, le 15 juillet. On a les données le 14. Le 15 juillet, on a déjà un papier qui parle un peu de science sur les archives. Et on continue comme ça. Le 18 juillet, on a tous ces papiers-là cherchent à trouver la galaxie la plus lointaine. Okay, c'est leur objectif. Et alors, le 26 juillet, on a l'équipe de foot, en quelque sorte, des chercheurs de galaxies, 11 papiers, 11 équipes qui, le même jour, annoncent leur découverte. Alors, ils utilisent tous les mêmes données. Et évidemment, il n'y en a aucun qui est d'accord avec ce qu'a fait son voisin. C'est-à-dire qu'en moins de 10 jours, il y a des équipes qui ont pris les données, qui ont analysé des données d'un instrument qu'on n'avait jamais utilisé avant. Avec Hubble, moi j'ai beaucoup travaillé avec Hubble, et j'ai fait ça avec Hubble, il fallait compter en gros 2 mois. Entre le moment où vous aviez les données qui arrivaient de Hubble, qui était un instrument qu'on connaissait parfaitement, Hubble, on savait exactement quand on avait un photon qui arrivait sur le détecteur, qu'est-ce que nous, après, on avait sur l'image. Le web, c'était la première fois qu'on l'utilisait. Donc en moins de 10 jours, il y a une vingtaine d'équipes qui ont été capables, qui ont fait ça très rapidement. Et c'est à partir de là qu'est née la controverse, notamment ce papier-là, publié dans la revue Nature, qui nous dit qu'il a trouvé une population de galaxies 600 millions d'années après le Big Bang, très massive. Et effectivement, ce papier-là, alors on va quand même regarder la date à laquelle ce papier a été soumis, 25 juillet 2022, c'est-à-dire qu'on est à 10 jours après la réception par le chercheur des données. Ce chercheur, il a trouvé 6 galaxies. Les voilà, ces 6 galaxies. Alors, vous les avez, c'est ce qu'on appelle les trombinoscopes d'une galaxie. Ça, c'est une galaxie que vous voyez à 600 nanomètres, 800 nanomètres, 1,15 microns, 1,5, 2 microns, 2,7, 3,5, 4,1 et 4,4 microns. C'est la même galaxie. Alors, c'est comme ça qu'on les détecte, nos galaxies lointaines. Je pourrais y revenir si vous avez des questions, mais en gros, on ne doit pas les voir dans l'optique et dans le très proche infrarouge, 800 nanomètres, et après, par contre, on doit bien les voir. Et il a trouvé 6 galaxies, 600 millions d'années après le Big Bang, qui sont aussi massives que la Voie lactée. Mais alors que ce que je vous ai dit dans ma partie cosmologie, c'est que les galaxies, elles se forment, elles sont toutes petites au début, elles fusionnent pour donner des galaxies plus grosses. Comment se fait-il qu'on ait, au tout début de l'univers, des galaxies qui soient aussi massives que la Voie lactée? Ça, c'était un sacré pavé dans la mare qui a été jeté par ce collègue australien. Et si on va un peu plus loin, c'est même pire que ça. Ça, c'est la masse stellaire maximale que peut avoir une galaxie. Ça, c'est la densité d'étoiles. En Y, vous avez la densité d'étoiles. Ce qu'on s'attendait à voir, c'est ces courbes-là. C'est-à-dire que si on prend ce qu'a vu Hubble, si on y projette un tout petit peu plus loin, on s'attend à ce que la limite, grosso modo, à redshift 8 en violet et à redshift 9 en orange, soit ici. Ce qu'a observé le Webb, on est quand même bien au-dessus. Bien au-dessus en termes de densité stellaire et en termes de masse stellaire. Et ça, ça nous pose un problème. Alors, il explique, le chercheur, comment se fait-il qu'on peut avoir... C'est pour ça que le papier a été accepté dans Nature, d'ailleurs, c'est parce qu'il arrive à donner une explication, une hypothèse en tout cas. Eh bien, il dit que les galaxies, ce que l'on sait sur les galaxies, c'est grosso modo, elles vont transformer 30% de leur gaz en étoiles. Ce qu'on appelle l'efficacité de formation d'étoiles. 30% pour une galaxie, pour à peu près les galaxies qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Pour expliquer la masse qu'elles ont, eh bien, ces galaxies, elles devraient carrément transformer quasiment 100% de leur gaz en étoiles. Tout le gaz disponible au début, paf, elles le convertissent en étoiles. C'est la seule façon pour expliquer, que ces galaxies soient si massives au début de l'univers. Alors là, j'ai pointé ce résultat-là parce que c'est un résultat qui est vraiment symptomatique, accepté dans Nature. Mais finalement, au cours de ces 15 premiers jours d'observation, on en a eu d'autres des galaxies. En voilà 3. Une à redshift 13, une à redshift 17 et une autre à redshift 17. Ça, c'est beaucoup plus loin que ce que pouvait voir Hubble avant. Hubble, il s'était arrêté autour de redshift 11. Là, on est à redshift 13, 17 et 17. Et comme on a mis tous nos résultats sur les archives publiques en ligne, il n'y a pas que les chercheurs qui regardent les archives publiques en ligne, il y a aussi les journalistes. Et les journalistes, ils ont vu ça, ils ont vu ces résultats. Donc ils ont fait des articles en disant « ça y est, le James Webb a trouvé des galaxies qui sont en train de casser le modèle standard ». Coup de chapeau pour le Figaro qui a été obligé de mettre le mot « révolution » dans son titre, vers une révolution cosmologique. Ça fait beaucoup rire mes collègues en Angleterre qui me disent « mais évidemment, un journal français doit utiliser le mot « révolution » dans son titre ». Non. Donc, on a déjà eu ça. Alors maintenant, évidemment, quand on est chercheur, on se dit « bon, calmons-nous et regardons un peu ces 6 galaxies qui défieraient le modèle cosmologique standard ». Ces 6 galaxies, les voici, elles sont en bleu, elles sont encadrées en bleu sur ce graphique. Et j'ai mis 2 paramètres, le redshift, qui est donc la distance de cette galaxie, et la masse stellaire. Et vous voyez qu'effectivement, la masse stellaire, on est autour de 10 puissance 11, ça c'est du log, on est autour de 10 puissance 11 fois la masse du Soleil, c'est effectivement la masse de la Voie lactée, grosso modo. Et les redshifts, on est autour de redshift 8, 9, 10, etc. Donc c'est ces 2 paramètres qui ont amené le chercheur à conclure que ces galaxies allaient casser le modèle cosmologique standard. Donc il y a 2 paramètres à regarder, la distance et la masse stellaire. La distance, si je veux la vérifier, c'est pas compliqué, il faut faire de la spectroscopie. Pourquoi ? Parce qu'avec comment est-ce qu'il a utilisé ? Il a déterminé la distance de ces galaxies juste en regardant les photos. Il regarde les photos, il se dit, c'est à peu près ça la distance. Non, si on veut faire une vraie mesure de redshift, il faut de la spectroscopie pour trouver la raie. La raie en émission, il y en a plusieurs, je vais vous en parler dans un instant. Mais c'est les raies qui vont nous donner la mesure précise du redshift. La raie d'hydrogène, la raie du carbone ou la raie d'oxygène. Ça, il ne l'a pas fait. Donc ça, il va falloir quand même qu'on aille le faire sur ces galaxies-là. Et puis la masse stellaire, on ne peut pas mesurer directement la masse stellaire d'une galaxie. Pour mesurer la masse stellaire, il faut qu'on utilise des modèles. Et les modèles en astronomie, c'est toujours un peu la foire, parce que tout le monde propose son modèle, tout le monde dit « mon modèle marche mieux que les autres », et du coup, lui, il avait un modèle, et il a dit « je vais utiliser mon modèle pour expliquer la masse de ces galaxies ». Ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qu'on appelle la distribution spectrale en énergie d'une galaxie. Là, vous avez la longueur d'onde qui est là, et vous avez le flux qui est en abscisse. Les points que vous avez là, c'est le flux qu'il a mesuré dans les images. Parce que je vous l'ai dit, lui, il n'a utilisé que les images. Il a pris plusieurs images, 3, 4, 5, 6, il y a 7 images. Il a mesuré le flux, il le rapporte, et ça nous donne grosso modo un spectre. Mais ce n'est pas tout à fait un spectre, puisque ce sont que des images, c'est que des morceaux, si vous voulez, de spectre. Et la masse stellaire, on la mesure comment? On la mesure avec les étoiles vieilles, et les étoiles vieilles, c'est dans cette zone-là qu'elles sont. Et en fait, son modèle fait passer le continuum. Ce qui est bien, c'est que je fais une conf devant des physiciens, donc je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Là, donc le continuum qui est là, ça nous donne le niveau de masse de ma galaxie. Et il y a un autre chercheur américain qui travaille à UCLA qui lui a dit « Attends, parce que si moi je pars du principe qu'une galaxie au tout début de l'univers, elle va former beaucoup plus d'étoiles que ce que l'on observe dans l'univers local, alors mes galaxies, elles ont un pouvoir ionisant beaucoup plus fort. Si bien que ce que tu vois là, ce n'est pas du continuum en fait, c'est de la contamination par des raies en émission qui sont très très fortes. Et ça, on sait qu'au début de l'univers, les raies en émission, parce que mes étoiles sont très très massives, elles émettent énormément de photons ionisants, elles vont aller ioniser toutes les molécules qu'il y a dans leur environnement, et c'est ce qu'on voit là, d'accord ? C'est les raies en émission qu'on a là. Et donc, vous voyez que là, pour le coup, le niveau du continuum est beaucoup plus bas, d'accord ? Parce que, on est complètement pollué ici par les raies. Et du coup, la masse est bien différente. Là, on est autour de 10 puissance 8, c'est grosso modo ce qu'on s'attend à voir dans l'univers local. Donc, première chose, le modèle qu'on a utilisé pour estimer la masse des galaxies, il n'est probablement pas vraiment adéquat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'il y a quelques semaines, il y a une équipe de Genève qui a observé des galaxies un peu plus proches, évidemment, et qui a montré, on n'était pas à redshift 8 ou 9, on est plutôt autour de redshift 5, et eux, ils ont été capables de mesurer directement l'efficacité de ces galaxies-là à transformer le gaz en étoile. Je vous l'ai dit, d'habitude, on s'attend à ce que ce soit 30%. Mais pour ces galaxies, on est plutôt autour de 50 à 60%. Donc déjà là, on est en train de se dire, peut-être que ce qu'on a toujours assumé comme étant la norme, les galaxies convertissent 30% de leur gaz en étoile, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que finalement, au début de l'univers, elles sont beaucoup plus fortes à transformer le gaz en étoile. Donc ça, il faut y garder en tête. Et puis pourquoi le redshift de ces galaxies, cette distance, n'est peut-être pas la bonne? Parce qu'en fait, les astronomes, ils ont une trouille, c'est la poussière d'étoiles. Alors la poussière d'étoiles, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est fabriqué à la mort d'une étoile quand une étoile explose. Vous savez qu'une étoile, c'est une usine qui va fabriquer tout un tas d'atomes, le carbone, l'oxygène, etc. Et en fin de vie, elle explose et elle va libérer tous ces éléments dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la poussière d'étoiles. Alors je pense que pour certains dans la salle, quand j'ai utilisé l'expression poussière d'étoiles, vous avez pensé à quelqu'un que vous avez peut-être reçu dans vos écoles. Et je voudrais lui rendre hommage, si je ne le fais pas devant vous, qui représentez les profs de physique de France, je m'en sentirais un peu honteux. Donc Hubert Reeves, qui est décédé il y a 2 semaines, que vous avez ici au sommet du Puy-de-Dôme, je ne sais pas si vous irez demain, c'est quelqu'un qui adorait les rencontres avec les jeunes. J'ai eu l'occasion d'en organiser 2 ici à Clermont, dans un collège et puis dans une école primaire. Il a écrit de très très beaux ouvrages. Si vous n'en avez pas lu, s'il y en a un que je peux vous conseiller, c'est réellement Poussière d'étoiles pour le coup, parce que c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais tout gosse et qui explique relativement bien toute l'astronomie. Et si vous voulez faire un beau cadeau de Noël, vous avez L'univers expliqué à mes petits-enfants, qui est aussi très chouette. Voilà, ça me permettait de faire un petit clin d'œil à Hubert Reeves le temps de cette conférence. On va revenir sur la poussière d'étoiles, puisque c'est lui qui avait utilisé cette expression-là. La poussière d'étoiles, je vous dis, c'est la peur des astronomes. Pourquoi? Là, vous avez une poussière d'étoiles vue au microscope électronique à balayage. Si autour de vos étoiles, vous avez de la poussière d'étoiles, l'étoile va émettre de la lumière. Alors, au début de l'univers, c'est de la lumière ultraviolette, parce que les étoiles sont jeunes. Votre poussière d'étoiles va absorber cette lumière, et elle va réémettre la lumière, mais d'une autre couleur, rouge. Si bien qu'une galaxie, l'ultraviolet de votre galaxie, est absorbée par la poussière d'étoiles, donc vous ne pouvez pas voir l'ultraviolet de la galaxie, et la poussière va réémettre tout ça en rouge, donc votre galaxie va apparaître rouge. Et comme on utilise pour estimer la distance des galaxies, je vous dis les images, on veut que cette galaxie ne soit pas détectée dans l'UV, mais bien détectée dans le rouge, bah, du coup, si vous avez une galaxie proche qui a beaucoup de poussière d'étoiles, vous n'allez pas la voir dans l'UV, vous allez la voir très très bien en rouge, mais uniquement parce que l'UV est absorbé par les poussières d'étoiles. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ces trois galaxies-là. Redshift 13, 17 et 17, ces deux galaxies-là, en fait, elles sont extrêmement riches en poussière, et donc c'est pour ça qu'on sait qu'elles ne sont pas du tout à ces redshifts-là, elles sont beaucoup plus proches, à redshift on est à peu près autour de 4-5. En revanche, celles-ci, elles semblent tenir encore la barque, on est à redshift 13, et ils ont trouvé une raie ici d'oxygène, donc celle-ci apparemment, elle serait à peu près correcte. Mais si vraiment on veut mesurer la distance de ces galaxies, on n'a pas le choix, il va falloir faire de la spectroscopie. Et la spectroscopie, elle a l'avantage, je vous ai dit, d'aller chercher les raies de certains éléments, parce que vos étoiles vont ioniser ces éléments-là. L'élément le plus abondant dans l'univers, c'est l'hydrogène. Donc la raie la plus brillante dans l'univers, ce sera la raie d'hydrogène, qu'on va appeler Lyman alpha, niveau 2 de l'électron, hein, qui passe du niveau 2 au niveau 1. Donc ça, c'est la raie Lyman alpha, que vous allez voir un peu partout. Et Lyman alpha, c'est intéressant, mais ça a un problème, c'est que si vous émettez Lyman alpha dans un environnement qui est déjà plein d'hydrogène neutre, que va faire votre raie Lyman alpha? Paf, elle va être absorbée par l'hydrogène neutre. Donc, vous n'allez pas la voir. Donc, Lyman alpha, ce n'est pas vraiment un très très bon traceur si vous voulez mesurer le redshift. Elle est très abondante, mais comme ces galaxies-là, elles sont entourées d'hydrogène neutre, eh ben, la raie, en fait, elle disparaît. Donc, il y a plusieurs autres régions du milieu interstellaire qu'on peut aller sonder. La région neutre, donc là, si vous avez vos étoiles là ou votre galaxie, vous avez une région ionisée juste autour. Ensuite, vous avez la région neutre et la région moléculaire. D'accord? Parce qu'évidemment, c'est là où vous allez envoyer et être capable de dissocier vos molécules. Donc, il va falloir aller regarder ces autres raies. Et c'est ce qu'a fait le Webb. Le Webb, il a fait très très tôt des spectres. Là, je vous montre les tout premiers spectres pris avec NIRSpec du Webb, où vous avez des raies d'oxygène ici, oxygène 3, et la raie de H-bêta pour une galaxie à redshift 9.5 et un tout petit peu plus loin ici, une galaxie à 9.76 avec encore des raies. Alors là, je crois que c'est encore H-gamma, la raie d'oxygène 2 qui est quelque part par là, etc. Donc le Webb a été capable de mesurer précisément le redshift, ce que n'a pas fait le collègue australien qui a annoncé que les galaxies étaient beaucoup plus massives que la Voie lactée au début de l'univers. Ça, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir aller mesurer précisément le redshift de ces galaxies. Ça n'a pas encore été fait, mais ça sera fait dans pas longtemps. Les premiers records du Webb, les voici. Hein, on va monter jusqu'à un redshift de 13.17. Voilà à quoi ressemblent les toutes premières galaxies. Ça, c'est les galaxies les plus lointaines que l'homme n'ait jamais vues. Là, pour le coup, si vous regardez ce tout petit point rouge ici, alors pas mon pointeur, hein, ce qui est juste derrière, eh bien ça, c'est la galaxie la plus lointaine que l'homme n'ait jamais vue. D'accord ? C'est quand même assez impressionnant. Et là, on est quelques 300 millions d'années après le Big Bang. Voilà pour la controverse. Il me reste une bonne dizaine de minutes, hein, quand même. Parfait. Alors là, maintenant, je vous parle d'un résultat inattendu. Parce que pour le coup, on était à peu près sûr. Là, je vous ai parlé de galaxies jusque-là. Et parce qu'on était à peu près sûr qu'au début de l'univers, il n'y a pas de trou noir. Pour former un trou noir, donc on va simplifier tout ça, un trou noir, il y a deux types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, c'est quand à la fin de vie d'une étoile extrêmement massive, l'étoile explose, hop, on va avoir un trou noir, c'est un énorme puits de potentiel, ou une courbure, enfin bon, une singularité dans l'espace-temps. Ou alors, on a les trous noirs supermassifs qu'on a au cœur des galaxies. Mais pour former un trou noir supermassif, il faut du temps. Donc évidemment, on pensait qu'au tout début de l'univers, il n'y avait pas de trou noir supermassif, puisqu'on n'est que 300 millions d'années après le Big Bang. Alors, comment faire pour vérifier cette hypothèse? Si vous avez un trou noir, vous avez un très fort champ de radiation. D'accord? Un trou noir, c'est ça son intérêt. Hein, c'est que vous allez accélérer de la matière, ce que vous avez sur cette petite vidéo-là. Et comme vous allez l'accélérer, vous allez être capable d'aller ioniser des atomes, et notamment l'atome d'azote, et vous allez tellement l'ioniser que vous allez être capable d'aller détecter cette raie, la raie d'azote 5. OK? Donc, si vous voulez chercher, savoir s'il y a des trous noirs dans les galaxies très lointaines, eh bien vous allez chercher cette raie-là. Il faut que je vous explique quand même ce graphique. Donc ce graphique vous donne le champ de radiation de deux types d'objets, les galaxies. Alors ça, c'est la courbe en orange que vous avez là et la courbe en bleu que vous avez là. Et le champ de radiation d'un AGN, c'est la zone en gris que vous avez là. Donc grosso modo, tous ces atomes-là, tout ce que vous allez voir ici, c'est ce que peut ioniser le champ de radiation d'une galaxie. Tout ce que vous avez là, c'est ce qui peut être ionisé par un AGN. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'arrêt d'azote 5, parce que la seule façon qu'on ait d'expliquer ce champ de radiation, eh bien, cette ionisation, c'est par le champ de radiation d'un AGN qui est ici. Okay, donc si je trouve l'arrêt d'azote 5, pas de problème, ça veut dire que j'ai un AGN. Eh bien, prenons tiens, un exemple, un autre spectre, celui-ci d'une galaxie à redshift 8.68, qui était tout à fait connue. On voit les raies très très bien, les raies d'oxygène, oxygène 3, 5007 angstrom, donc évidemment décalé avec le redshift. Et puis regardez là, hop, là on a l'arrêt d'azote 5. Donc redshift 8.68, on est grosso modo 700 millions d'années après le Big Bang. 700 millions d'années après le Big Bang, on a des indices comme quoi il pourrait y avoir un trou noir supermassif. Et on est même capable de mesurer la masse de ce trou noir supermassif. On est autour de 10 puissance 7 masses solaires. Ça, on ne s'y attendait pas. 700 millions d'années après. Comment former un trou noir ? On pensait que pour former un trou noir, il fallait grosso modo un milliard d'années. C'était la valeur qu'on utilisait. Là, 700 millions d'années après le Big Bang, ça ne veut pas dire que la galaxie existe depuis 700 millions d'années, puisque je vous ai dit que les galaxies se forment 300 millions d'années après le Big Bang. On a déjà un trou noir. Oui, mais le Webb, il ne s'est pas arrêté là. Le Webb, il en a observé d'autres, des galaxies. Il a observé celle-ci. Celle-ci, elle est formidable, elle est à redshift 10.6. Redshift 10.6, donc là, on est 400 millions d'années après le Big Bang. Là, pour le coup, on se rapproche vraiment des toutes premières galaxies. Et quand on regarde son spectre, très beau spectre, plein de raies, etc., le oxygène 3, etc., le carbone, la raie du carbone ici, la raie de l'hélium est là. Et si on s'intéresse un tout petit peu plus au carbone 4, à la forme de l'arrêt carbone 4, ça c'est ce qu'on appelle un profil P-Cygni, eh bien cette raie-là nous dit que dans cette galaxie, 400 millions d'années après le Big Bang, il y a un trou noir. Et on peut même estimer la masse de ce trou noir, je ne l'ai pas mise là, mais on est de l'ordre de 10 puissance 6 fois la masse du Soleil. Donc c'est quand même assez impressionnant, et ça on ne s'y attendait pas, et ça nous pose de très très gros problèmes de voir qu'il y a des trous noirs si tôt dans l'histoire de l'univers. Et on en a d'autres. Vous avez cette galaxie-là que je suis en train de vous montrer. Ça, c'est une autre qui a été détectée par Chandra au rayon X. Et puis le Webb est parti regarder ce qui se passait. Et il a trouvé une autre galaxie. Et vous avez encore la masse du trou noir de l'ordre de 10 puissance 7 masses solaires. Donc si vous voulez garder un chiffre en tête, la masse d'une galaxie, c'est de l'ordre de 10 puissance 9. La masse du trou noir, c'est entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7 fois la masse du Soleil. Okay. Et là, c'est pareil, on a un redshift 10.3, donc encore au tout début de l'univers. Donc ça veut dire qu'on a déjà trois exemples de trous noirs au tout début de l'univers, alors qu'on ne s'attendait à en trouver zéro. Là, vous avez un autre spectre qui vous donne, donc, qui a été fait aussi par le Webb, mais la résolution n'est pas top. Bien que le Webb soit un super instrument, et j'ai passé mon temps à dire que le Webb était un super instrument, eh bien, en fait, on a quand même pas mal on est limité, notamment sur la détection de raies, les raies les plus faibles. Donc là, pour le coup, on va attendre d'avoir la spectroscopie au sol avec les grands télescopes, notamment les télescopes de 40 mètres que l'Europe est en train de construire actuellement au Chili, dans le désert d'Atacama. Et alors, le problème de ces trois trous noirs, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à expliquer comment on peut avoir, au tout début de l'univers, des trous noirs si massifs alors qu'on ne s'attendait pas à les trouver. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par Jack Bennett de Harvard et qui a montré, donc qui a compilé, donc ça c'est les masses de nos trois trous noirs, les trois trous noirs dont je vous ai parlé juste avant, par rapport à ceux qu'on connaissait un milliard d'années après le Big Bang. Redshift 6, c'est un milliard d'années après le Big Bang. Et il montre que peut-être il arriverait, alors c'est quand même assez tiré par les cheveux, hein, parce qu'on voit, moi pour moi, je vois un trait, c'est plat quoi. Mais lui, il arrive à dire que peut-être avec ses modèles, il arriverait à expliquer eh bien, ces trois trous noirs. Ce qu'il faut maintenant avec le Webb, bah, c'est d'aller rajouter des points sur tous ces graphiques. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de se planter quand on estime la masse des trous noirs ? Est-ce que la méthode qu'on utilise pour détecter les trous noirs, est-ce que c'est la bonne ? Parce que normalement, un trou noir, on le détecte en rayon X. Hein. Vous avez vu qu'il y a des jets qui partent de chaque côté du cœur du trou noir, et c'est avec ces jets-là qu'on détecte en rayon X les trous noirs. Là, on a utilisé une autre méthode. Est-ce que finalement, cette méthode, elle tient toujours la route ? Alors, le futur de l'étude des trous noirs, hein, je viens de vous le dire, c'est les rayons X. Et il se trouve que la France et l'Agence spatiale européenne, ils ont un projet, c'est le projet Athéna, dont un des instruments, l'instrument IFU, est porté par un chercheur français à Toulouse, Didier Barré. Et Athéna va avoir plusieurs objectifs, évidemment, dont celui d'aller identifier les trous noirs à très grand redshift. Alors, Il faut savoir que l'Agence spatiale européenne, je suppose que c'est pareil dans les budgets de l'éducation nationale, à chaque fois qu'on a un projet, que demande l'Agence spatiale européenne ? Faites la même chose, mais avec un budget qui est deux fois moins grand. Donc on n'est pas trop mauvais, on essaye de le faire, etc. Et ils ont fait ça pour Athéna. Avant le lancement du James Webb, ils ont dit « Ouais, c'est bien, essayez de refaire la même chose, mais en diminuant par plus de 30% votre budget. » Les chercheurs l'ont fait, et depuis que le Webb est arrivé, ben là, il y a une niche de cas scientifiques qui est en train de sortir, c'est les trous noirs à grand redshift, au tout début de l'univers, super. Et en fait, maintenant, on est reparti voir l'Agence spatiale européenne, et on leur a dit, mais attendez, là, le James Webb est en train de montrer un truc auquel on ne s'attendait pas, on en trouve de plus en plus, Athéna arrive en 2035, c'est-à-dire plus ou moins dans 10 ans, on va prendre les retards, évidemment, donc Athéna va être le seul instrument pour pouvoir le faire. Alors peut-être qu'on va gagner du budget dans cette mission. Ce serait peut-être la première fois dans l'histoire spatiale que, eh bien, un budget de mission est revu à la hausse plutôt que à la baisse. Alors, comme il reste 10 minutes, j'ai dû, à mon avis, carburer, je vais pouvoir vous faire mon petit coup de gueule sur comment le web a changé notre façon de faire de la science. Ou alors, je vais le faire rapidement. Et puis après, on passera aux questions. Alors, ce qui se passait avant, c'est que quand on avait les images, on prenait les images. On les avait pour nous pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, ça dépendait de ce qu'on avait demandé. On analysait les données, on prenait le temps d'analyser les données. Et une fois que les données avaient été analysées, on écrivait un article scientifique qu'on soumettait à un journal. Le journal l'envoyait à nos pairs, à nos collègues scientifiques, qui nous faisaient des commentaires en disant « bah tiens, change ça, là j'ai pas compris, est-ce que tu peux un peu améliorer ?» Et une fois que le papier était validé par le journal scientifique, on le mettait sur nos archives, c'est-à-dire à disposition de tout le monde. Là, maintenant, le web, il fait un peu différemment. Le web, les données sont prises, elles sont publiques. Tout le monde peut avoir les données en même temps, pour 80% des programmes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'évidemment, tous les chercheurs ont accès en même temps aux données. Du coup, tout le monde va prendre les données et va vouloir faire exactement la même chose, les mêmes recherches, grosso modo, chercher la galaxie la plus lointaine. Et oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Si on veut chercher la galaxie la plus lointaine, il faut être le premier à le mettre sur les archives publiques. C'est-à-dire que ce qu'on montre à tout le monde, ce n'est pas un truc qui a été vérifié. C'est un truc qu'on a écrit très vite, qu'on a mis sur les archives pour dire « hop, hop, c'est nous les premiers à l'avoir fait ». Et ensuite, seulement après, on l'envoie à un journal, qui pour le coup, le journal va avoir exactement la même façon de travailler, va l'envoyer à des pairs, et ça va être accepté ou refusé. Je vous prends un exemple. L'exemple qui, à mon avis, est le plus flagrant, c'est cette galaxie. CIRS 93-316. Annoncée comme étant vue telle qu'elle était 240 millions d'années après le Big Bang. L'annonce est faite, l'image est reçue, on met tout ça sur les archives. Je vous ai dit, sur les archives, il n'y a pas que les chercheurs qui vont. Il y a aussi les journalistes. Les journalistes, hop, ils ont trouvé cette galaxie-là. Ils ont vu, tiens, il y a une galaxie très lointaine, ils en ont fait des articles et des reportages. Pas pour blâmer les journalistes, là, pour le coup, ils ont trouvé ça parce qu'on leur a mis à disposition. C'est à nous aussi de nous... Donc, ils ont fait leur article et leurs journaux. Et après, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Attendons, quand même, ça fait quand même beaucoup de buzz, cette galaxie. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle est à 240 millions d'années après le Big Bang ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti voir le directeur du web, et on lui a dit, parce qu'il a du temps, le directeur d'un télescope a toujours du temps, et on lui a dit... Est-ce que tu voudrais pas réobserver cette galaxie pour nous dire si vraiment elle est aussi lointaine qu'on le dit ? Et il a dit, oui, pas de souci, on va programmer les observations. Alors, il se trouve que ces observations, elles ont été faites en mars de cette année. Et j'ai organisé à Cambridge, à ce moment-là, une conférence où tous mes collègues qui bossent sur les premières galaxies étaient venus pour présenter leurs résultats, etc. Et les observations devaient avoir lieu. Donc, on s'était réunis du lundi au vendredi. Et le vendredi soir, c'est la date au moment où les observations doivent être faites. Et quand vous faites des conférences scientifiques, vous avez toujours quelqu'un qui fait l'introduction et quelqu'un qui fait la conclusion. Et le chercheur qui a fait la conclusion de notre conférence, il a conclu son propos en disant, il a juste montré une capture d'écran du programme d'observation de Webb où on nous disait que cette galaxie allait être observée dans la nuit. Et il a conclu son propos en disant, je pense que vous allez tous ici passer une très bonne nuit puisque vous allez attendre les données, vous allez les réduire pour essayer de voir si cette galaxie est vraiment lointaine ou pas. Et là, moi, je me dis, c'est pas possible, les gens ne vont pas faire ça. Oui, mais c'était le vendredi soir. Comment fonctionnent les archives pour les scientifiques ? Les archives, elles sont ouvertes, grosso modo, du mardi au vendredi. Vous annoncez les découvertes du mardi au vendredi. Si vous soumettez votre découverte jusqu'au vendredi 19h, Vous allez la voir apparaître le lundi matin. Ah bah, pas de chance, les observations étaient dans la nuit du vendredi au samedi. Donc, ce qui veut dire que l'annonce ne sera faite que le mardi d'après. C'est trop long. C'est trop long. Alors, à votre avis, qu'ont fait les scientifiques? Où les scientifiques, mes collègues, ont publié ce résultat? Le samedi matin à 11h, sur Twitter, on a eu la capture d'un spectre non réduit, c'est-à-dire un spectre brut, pour lequel on voyait des raies qui nous disaient clairement que eh bien, cette galaxie, ce n'était pas du tout une galaxie lointaine. C'était une galaxie qui était beaucoup plus proche. Et là, c'est un problème quand même. Alors évidemment, ce serait facile de blâmer mes collègues scientifiques et de dire c'est parce que les scientifiques sont nuls, etc. Ils veulent la gloire, etc., etc. Non. Le gros problème, à mon avis, c'est que les données sont publiques. Si vous mettez des données publiques et que vous gardez le système que l'on a pour la recherche, c'est sûr que vous allez avoir ce genre de problème. Pourquoi? Parce que la recherche, alors en France, je ne sais pas trop, mais en Angleterre, en tout cas, c'est sûr, elle est faite à plus de 50% par des gens qui sont sur des contrats non permanents, c'est-à-dire qui sont précaires. Plus de 50% de la recherche est faite par des gens précaires. Comment fait-on pour passer de précaire à permanent en recherche? Eh bien, comment on évalue les chercheurs? Par leur nombre de papiers, leur nombre d'articles, et le nombre de citations qu'ils ont. Si vous êtes le premier à utiliser les données du web pour dire que cette galaxie, c'est la plus lointaine, vous allez avoir un nombre de citations incroyable, et puis vous allez peut-être gagner votre poste permanent. Donc, si vous faites ça, ce système-là, où finalement plus de 50% de la recherche est faite par des gens qui sont précaires, et que vous donnez les données publiques, évidemment, vous avez ce genre de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment? C'est qu'on demande à la NASA d'arrêter de mettre les données publiques. Et la NASA nous a répondu, oui, mais non. Pourquoi? Vous avez vu qui est parti annoncer à la télé les données? C'est Biden, qui a les premières images. Ils ont tellement investi dans ce télescope. Ils sont repartis voir le Congrès, c'était en 2018, parce que le Congrès avait coupé les fonds du James Webb. Ils ont dit non, on ne le fera pas. Ils sont repartis, Ils sont repartis devant le Congrès, ils ont réussi à avoir une rallonge de budget. Il est évident que la NASA ne veut qu'une chose, beaucoup de papiers, beaucoup d'articles scientifiques qui utilisent données du web. Peu importe que ce soit juste ou que ce soit faux, du moment qu'il y en ait. Voilà. Donc du coup, ce qui veut dire que quand vous allez entendre des résultats avec le web, je ne peux vous engager qu'à ne faire une chose, à être très prudent et à regarder d'où ça vient, quand les données ont-elles été prises, etc., pour voir si ça n'a pas en fait été un travail qui a été fait un peu rapidement. Alors comme je ne veux pas finir quand même sur quelque chose de négatif, je vais quand même vous dire que la première année du web, elle a été assez exceptionnelle, avec plein de résultats. Ça y est, on a battu la limite observationnelle de Hubble, ça a été fait, c'est les galaxies que vous avez juste là. Ça, c'est les galaxies les plus lointaines que l'on ait jamais vues. Des trous noirs aux confins de l'univers, ça je vous ai dit, si on n'est pas capable de l'expliquer, on ne sait pas trop d'ailleurs comment on va faire pour expliquer ça, peut-être nous falloir d'autres télescopes. Je vous en ai pas parlé, mais les galaxies, on a montré aussi qu'elles étaient plutôt formées en groupe, plutôt qu'individuellement. Et puis je pourrais vous parler d'exoplanètes, mais ce n'est pas vraiment mon domaine, mais il n'empêche que les exoplanètes, elles ont quand même eu, le domaine des exoplanètes, ils ont eu des résultats assez sympas. Ici, c'est une étoile qui a été masquée par le coronographe, et ce que vous voyez autour, en bleu, en violet, en jaune et en rouge, c'est une exoplanète. C'est une des premières photos, c'est la première photo du web d'une exoplanète. Voilà, donc c'est une année qui a été extrêmement riche. Et puis je vais finir, parce que j'aime bien finir mes conférences, juste avec des images, de la belle musique, parce que moi c'est ce qui m'a fait rêver, c'est ce qui a fait que je suis devenu astrophysicien, c'est les images qu'on pouvait voir dans les salles de classe quand j'étais plus jeune, que ce soit au collège ou au lycée, ces images de galaxies, etc. Je vous rappelle que vous pouvez tous avoir des images prises par les télescopes dans vos classes. Il suffit d'écrire où à l'ESO, qui est l'Observatoire européen austral. Vous avez le droit d'avoir gratuitement, ils vous enverront des très belles photos de la Lune, de galaxies, etc. Et l'Agence spatiale européenne, ou le CNES, écrivez-leur, et ils peuvent vous envoyer des images. Moi, c'est ce qui m'a fait rêver. Donc on va finir comme ça, un peu de musique, ça va nous permettre aussi de nous redescendre un peu la température du cerveau. Et après, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions.